J'ai eu l'occasion de lire le manuscrit avant la parution, donc peut-être un manuscrit encore plus épais que le livre actuel. Je vous conseille la lecture parce que on sait que Dieu est dans les détails et il y a vraiment beaucoup de détails où il y a une imagination, une pertinence sur beaucoup d'aspects qui méritent d'être bien compris. Alors je vais passer la parole à Guy Maugis, donc Bosch, le groupe Bosch, qui va nous parler un peu de la même chose, mais ailleurs.
Un peu de la même chose, mais différemment, puisque quand on parle d'automobile, il faut aussi penser aux fournisseurs. Donc Bosch est le premier équipementier mondial, donc pour rappeler 2-3 chiffres, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'automobile, et surtout la R&D et l'innovation étant le cœur du métier, puisque un groupe qui fait 4,5 milliards de R&D dépose à peu près 16 brevets par jour et est à l'origine de la grande majorité des innovations des dernières années dans l'automobile, que ce soit l'ABS, le SP, le Common Rail Diesel ou d'autres. Et au début des années 2000, on se trouve confronté à une réflexion stratégique qui est la suivante, qui est de voir le métier de l'automobile évoluer comme un marché grand public, que l'on connaît nous aussi au travers d'équipements type électroménager ou électroportatif, où on connaît bien ce qui s'appelle l'effet Diabolo, qui est l'émergence d'un marché où il y a de la place pour du très haut de gamme, de la place pour du très bas de gamme, et puis un milieu qui se rétrécit au fur et à mesure. Et on voit au début des années 2000 toute une série de nouveaux projets qui émergent, la Logan bien sûr, mais chez d'autres constructeurs, des projets de véhicules low cost ou ultra low cost qui nous amènent en 2002-2003 à se dire qu'à horizon 2020, c'est-à-dire demain, on va fabriquer dans le monde entre 10 et 15 millions de véhicules à très bas coût sur une production totale mondiale de 100 millions de véhicules. Donc de se dire, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à ce marché, sachant que notre ADN, c'est celui de la course aux armements, c'est-à-dire de rajouter à chaque fois, en rentrant par le haut de gamme allemand, hein, puisqu'on est un groupe allemand assez consanguin avec nos quatre voisins qui sont Mercedes, Porsche, BMW, Audi. Et systématiquement, on va venir avec un nouveau gadget qui va apporter plus ou moins aux consommateurs, mais on va le rajouter sur les vaisseaux amiraux que sont les A8, les Classes S ou les Series 7, avec des prix tout à fait exorbitants, mais qui permettent de faire rentrer le produit et puis ensuite de le communaliser. L'exemple le plus connu, le plus clair, étant celui de l'ABS, qui est rentré d'abord chez Mercedes, puis ensuite a été décliné, qui maintenant est en série sur la totalité des véhicules européens. Donc c'est une double inquiétude qui est aussi de dire comment un groupe qui est câblé pour faire ce type d'innovation peut réagir à ce nouveau segment de marché avec, vous pouvez assez bien le comprendre, des débats relativement passionnés, notamment dans un milieu très automobile macho où tout ce qui a moins de 8 cylindres n'est pas réellement intéressant. Parce que le Graal, c'est quand même au moins un V6 et de préférence un moteur de Formule 1. Et c'est quand même nettement plus amusant pour un ingénieur de travailler sur la dernière Porsche Carrera que sur un véhicule de série, quelle que soit sa qualité. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête quand on s'adresse à des passionnés de l'automobile, des passionnés des moteurs. Et puis arrive à ce moment-là le projet Tata Nano, qui est le projet ultime, puisqu'on parle d'un véhicule à 1000 euros. Et là, le groupe, et c'est là encore où on a la vision d'une direction générale, qui a à la fois cette vision d'un marché qui s'ouvre, hein, de véhicules très low cost. Comment est-ce qu'on peut y aller? Donc on fait le pari, complètement fou, de dire, écoutez, on tape dans la main avec Tata, et on va vous faire le système d'injection de la Tata Nano. Et on confie ça à des équipes d'ingénieurs avec un cahier des charges qui est assez simple, qui est en gros de dire de fabriquer un système d'injection alors qu'ils ont l'habitude d'avoir des systèmes qui se vendent aux alentours de 1000 euros, qui est le prix de la voiture. Donc quand on parle de disruption, là on a un facteur pratiquement à division entre 10 et 100 par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et je dirais que l'intelligence de l'organisation est de dire, Stuttgart, on va donner ça à nos meilleurs spécialistes en motorisation, dont la première réaction est de dire, comme tu le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben alors on leur expliquait que comme ils étaient très très bons, c'était justement, et je vais y revenir, parce que c'est eux qui maîtrisaient totalement leur art, qui pouvaient l'exprimer avec toute la simplicité que seul le grand artiste qui a fait ses gammes est capable d'avoir. Et puis pour marquer le coup quand même, on a donné ça à une équipe d'Indiens qui était extrêmement motivée, puisque le projet Tata Nano avait une dimension nationale très forte. Et puis on venait d'ouvrir 2 ans avant un centre de recherche en Chine, qui était évidemment, où les ingénieurs étaient évidemment intéressés par le marché chinois, où on voyait déjà le succès des Geely et autres Chery, qui eux, on leur a dit aussi, vous faites un truc avec 3 démarches. Donc en Allemagne, partir des moteurs classiques, et puis les downsizer, les réduire, les simplifier, enlever tout le gras. Au niveau de l'Inde, partir de systèmes qui existaient déjà sur des mobilettes ou des 3 roues, les three-wheelers qu'on voit un peu partout dans les rues, et de les upgrader pour faire quelque chose qui ressemble à une voiture. Et puis nos collègues chinois, on leur a donné une feuille blanche en leur disant « allez-y, vous faites ce que vous voulez ». Et puis on a fait converger les trois démarches. Avec des résultats assez étonnants, qui fait que tout le monde s'est pris au jeu. C'est devenu extrêmement passionnant. Donc je raccourcis l'histoire, mais donc la solution, c'est qu'on a effectivement réussi à mettre au point un système qui fonctionne et qui tient les coûts qui étaient prévus, qui évidemment est beaucoup plus frustre que ce qu'on peut avoir sur un véhicule plus sophistiqué, mais qui répond au cahier des charges. Mais je dirais surtout, et pour répondre un peu à la question, est-ce de l'innovation, est-ce qu'il faut aimer ce type d'innovation, la grande surprise pour nous a été de voir la passion que nos braves ingénieurs allemands ont mis dans la réalisation de ce projet. Et aujourd'hui, je pense que c'est celui dont ils sont le plus fiers, parce qu'ils ont vraiment dû aller jusqu'au bout de leur imagination pour arriver à faire quelque chose de réellement simple, alors que c'est finalement beaucoup moins difficile de rajouter une couche de quelque chose pour faire quelque chose de plus en plus compliqué. Donc ils nous disent, enfin, ou ils me disent, que là, ils ont vraiment dû se donner du mal pour y arriver. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème d'embarquer des équipes sur ce type de projet de simplification. Voilà, c'est essentiellement le témoignage que je voulais donner en écho de ce qu'a pu dire Christophe.
J'ai 2 remarques. Ça me rappelle le vieux principe Shadok. Pourquoi se fatiguer la vie et faire des choses simples alors qu'il est si facile de faire compliqué? Et 2e point, tu n'as pas dit, mais c'est les Allemands qui ont gagné finalement, ou il y a une synthèse harmonieuse?
C'est un vaste débat.
On sait pas. C'est tout le monde a gagné. Et...
dans un grand groupe, ça ne peut être que la maison mère qui gagne.
Bon, je passe la parole à Yves Dose.